sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Alors bonjour.
Salut.
Anna.
Salut.
Et Lolo.
Yes, salut Clé.
Bonjour Clé, ça va?
Oui, super, et vous?
Ça ouais. Va,
c'est on cool. est ensemble aujourd'hui pour parler de quelque chose qui nous rassemble, la création.
Yes, la créa.
Et j'aimerais vous demander comment ça a commencé pour vous, la création?
La création, je parlerai pour moi. La création, je te dirais, ça commence déjà depuis tout petit déjà, tu commences déjà à écrire des textes, à écrire des mots, à taper des rythmes. Donc, c'est les premiers, tout petit déjà.
Ça vient de l'enfance.
C'est ça.
Pareil pour moi, pour ma part, je pense que ça a commencé avec le théâtre en sixième. Donc c'était plus dans les arts vivants pour m'exprimer, parce que beaucoup d'énergie à canaliser.
Et dans quels espaces vous avez l'habitude de créer? Est-ce que vous avez des habitudes, des espaces extérieurs, intérieurs?
Peu importe, ça peut venir de, ça peut se faire n'importe où. Je peux être, en ce moment même, je peux être en train de penser à quelque chose qui va me faire le prochain morceau ou la prochaine instru. Il n'y a pas de lieu particulier, quoi.
Oui, je pense que c'est quand on décide. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que c'est quand je me mais dans un état un peu, pas secondaire, mais quand je me coupe un peu du monde et que je vais mettre ma petite musique et je vais me faire un thé, je vais mettre des bougies, je sais pas, un petit peu, je me mets dans mon petit monde et je me laisse aller en fait. Je me coupe un peu de tout ce qu'il y a autour. Et du coup, je pars un peu dans la création.
Yes. et toi, Lolo, est-ce que tu as des habitudes de... Je sais pas, alimentaire ou peu importe. Est-ce que tu as besoin d'un thé, par exemple, comme Anna ou...
Non.
T'allumes enfin, pas une petite bougie?
J'ai besoin d'un thé jamaïcain, on va dire. Un thé jamaïcain. Pendant longtemps, je m'en servais beaucoup pour composer. Beaucoup à mes débuts.
Mm-hmm.
Après, moins avec le temps, parce que j'ai pris une habitude de créer qui fait que j'ai plus besoin d'autant fumer que pour créer qu'avant, quoi. Avant, vraiment, je m'en servais pour aller chercher des...
L'inspiration?
Pas l'inspiration, plus...
Un lâcher prise
ou aller chercher des trucs qui sont... C'est de l'ordre du divin, on peut dire ça, tu vois.
Yes.
T'entends des trucs qui font que... Je prenais l'habitude de commencer une instru, par exemple. Je vais faire la batterie. Et une fois que je vais faire la batterie, une fois que j'ai ma base, je me dis, bon, allez, là, j'allume le truc. Et je me rappelle, j'avais un pote, il m'avait ramené une genre de petite pipe de Thaïlande. Et je me souviens, je bourrais la pipe, hop, j'allumais mon truc. Et je sentais que ça partait. Et dès que ça partait, hop, je me mettais sur mon piano, je commençais à mettre les harmonies, les trucs. Et là, j'entendais des trucs de ouf.
C'est qu'il y a une dimension spirituelle du coup dans ta création. Et de sacralité aussi, puisque tu ritualises, là, quand tu parles de la pipe, c'est une forme de rituel.
Ouais, c'est clair. C'est un peu comme les Jamaïcains, le chalice. Il y a tous. Ouais, c'est un petit. Ouais, pendant longtemps, ouais, j'ai ritualisé ça. Et c'est vrai que je le fais moins maintenant. Mais c'est, pour moi, quand je faisais ça, en fait, j'arrivais à créer des. Ce que je créais, je trouvais que c'était puissant, quoi.
Mmh. Et toi, Anna, est-ce que tu as des rituels, quelque chose de sacré ou
quelque chose de sacré, pas forcément. Je prends pas forcément de thème jamaïcain pour ma part. Mais je me laisse aller et tout est un processus avec mon intuition. Donc tout ce que je vais créer, c'est intuitif, c'est vraiment inconscient. Et en fait, je mélange beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de tribus, beaucoup de peuples, beaucoup de symboles. C'est vraiment pas. C'est un peu un art qui va dissoudre toutes les frontières. Voilà. J'arrive pas à plus expliquer là tout de suite maintenant. C'est un peu difficile d'expliquer tout ce qui est inconscient et intuitif. Je pense que voilà, ça s'explique pas.
Vous écoutez le best-of de Sur les chemins de la création.
Mon idée première était simplement de laisser la parole aux artistes en s'interrogeant sur ce qui nous traverse lorsqu'on entre en création. C'est tout, je n'attendais rien de plus, si ce n'est de laisser faire et de voir où ça nous mène. Et puis, au fur et à mesure, en recherchant des profils créateurs, en convoquant la rencontre, en se racontant nos circuits intérieurs de façon plus ou moins intime et sensible, j'ai senti que l'émission était un prétexte au partage, que ça tissait du lien, que j'y prenais beaucoup de plaisir et éprouvais de la joie. La création, c'est souvent ça. On part d'un point A pour aller à un point B. Mais ce que l'alphabet ne dit pas, c'est qu'entre le A et le B se trouve un infini de lettres qui forment des syllabes. Les syllabes forment des mots, les mots s'articulent entre eux, parfois s'entrechoquent, se superposent, se caressent ou se mettent à rire très fort. Bref, entre la lettre A et la lettre B, il y a un espace pour raconter des histoires, nos histoires. Et aujourd'hui, j'accueille Florence Trébuchon et Cuillère dans les studios de Divergence pour de nouvelles histoires car on ne s'en lasse pas. Florence est comédienne et humoriste et Cuillère est autrice et illustratrice de bandes dessinées. Bonjour Florence et Cuillère.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présente pour cette émission. Alors, j'aimerais savoir en tout premier, quand est-ce que la création entre dans vos vies? Petite historique, on fait un rewind de life.
Bah alors moi, c'était il y a très très longtemps, puisque c'était quand j'étais enfant. J'ai écrit ma première pièce de théâtre, je devais avoir 12 ans. J'adorais lire du théâtre et je l'ai fait jouer à mes cousins, mes petits copains pendant les vacances d'été. J'ai créé un petit festival éphémère pendant 3-4 ans dans le village de mes grands-parents à Lozère. Et l'idée de la création, le besoin d'écrire et de jouer ne m'a plus quittée après, même si je ne l'ai pas tout le temps réalisé.
Yes. Et alors le festival, tu l'as créé quand tu étais enfant?
La première année, je suis arrivée au mois d'août et j'ai dit j'ai écrit une pièce au mois de juillet, je vais la monter avec mes cousins et mes copains. Et on va la jouer dans le village sur des tréteaux. Et c'était un petit village où ils n'avaient pas grand-chose à faire l'été, de 200 habitants. Et tout le village est venu nous voir.
Waouh.
Et on a fait la quête, on disait la quête à l'époque, c'était une sortie au chapeau en fait. Hein. Et on a eu beaucoup de succès, on a eu plein de sous, on a pu s'acheter plein de bonbons. Et l'été d'après, j'ai écrit une nouvelle pièce et ça a duré pendant 4 ans en fait.
Ça doit être des très jolis souvenirs.
Oui, et difficile déjà parce que tous mes petits copains et mes cousins avaient beaucoup moins d'énergie créatrice que moi et ils avaient plus envie de jouer qu'apprendre mes textes. Alors, c'était un peu bizarre, mais il y avait quelque chose de très puissant en moi pour faire ça, oui.
Yes, merci. Et toi, Cuillère, quand est-ce que la création entre dans ta vie?
Moi, je dirais aussi que c'était quand j'étais toute petite parce que... Je suis enfant unique, j'habitais dans une maison où il n'y avait rien, mes parents travaillaient et j'avais vraiment... tout était globalement ennuyant, il n'y avait pas la télé, j'avais pas de jeux vidéo, j'avais rien à faire. Et la seule chose que du coup j'aimais faire, c'est lire les fluides glaciales de mon père dans les WC et... Du coup, j'ai toujours été, on va dire, entourée de BD chez eux. Du coup, je prenais le temps, des fois, de dessiner. Je prenais des carnets et je racontais ma vie comme dans un journal intime, mais en BD, en fait. Parce que c'était ma seule référence globale, la bande dessinée. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai un peu toujours fait et que je continue encore aujourd'hui.
Donc, voilà. Dès enfant, t'as commencé à dessiner et écrire à la fois. C'est intéressant, t'as pas juste dessiné ou écrit et après mis les deux ensemble, c'est que pour toi, instinctivement, les deux allaient ensemble tout de suite.
Oui, vu qu'en fait, je racontais mes journées globalement en dessin ou que je dessinais ce qui arrivait à mes parents, je dessinais... des trucs que je voyais dans la rue, dans mon jardin, n'importe quoi. Du coup, écrire, c'était hyper spontané puisque c'était des trucs qui m'entouraient. Du coup, je ne me rendais pas compte que j'allais écrire quelque chose vraiment. Je présentais la réalité comme je la voyais, quoi. Voilà.
Et en parlant de réalité, est-ce que quel est ce rapport à la réalité ? Soit toi, c'est très présent, en l'occurrence, que tu prends quelque chose qui se passe dans la rue, qui t'interpelle et tu vas le mettre sur le papier. Toi, Florence, par exemple, est-ce qu'il y a des réalités comme ça qui te poussent à créer ?
Alors oui, à l'époque, non. Et puis après, j'ai fait du théâtre, j'ai joué des textes d'auteurs, c'était pas la réalité. Mais si je me suis orientée vers l'humour et le stand-up, justement, c'est pour rejoindre la réalité, exactement. Et c'est vraiment un des moteurs aujourd'hui qui m'anime terriblement, c'est d'utiliser tout mon désir d'écrire et de jouer au service d'une réalité qui parfois me dérange, que je veux dénoncer, ou autour de laquelle j'ai envie de m'amuser. Mais vraiment, c'est la chose la plus puissante qui fait que j'étais au stand-up aujourd'hui alors que je viens du théâtre, c'est de rejoindre la réalité, exactement. Et de la partager avec les spectateurs, parce que dans le stand-up, il n'y a pas ce qu'on appelle le quatrième mur. C'est-à-dire que dans le théâtre, on joue comme si les spectateurs n'existaient pas, ce qui est un peu bizarre finalement, comme convention. Et dans le stand-up, eh bien, ce fameux quatrième mur n'existe pas et on s'adresse à des gens. Donc il y a une réalité au moment où on est sur scène, il y a la réalité puisqu'on reconnaît qu'il y a des gens et c'est la réalité. Et on parle de sujets qui sont le réel de notre actualité, de notre société, du monde qui nous entoure. Et ça, c'est très puissant.
Du coup, est-ce que vous avez des thèmes ? Des thèmes de réalité, justement, qui reviennent souvent dans vos créations.
Moi, j'aime beaucoup parler de l'adolescence et j'aime beaucoup parler de tout ce qui... j'aime beaucoup parler de ce qui m'arrive en tant que fille aussi en BD et tout ça parce que j'ai toujours mis le truc à dire là-dessus. Et je sais pas c'est quoi mes thème de prédilection, mais j'aime bien les trucs un peu dégueux en rapport avec le corps aussi. Et j'aime faire des BD un peu choquantes, un peu dégueux, mais hyper réelles du coup. Voilà.
Yes, on voit l'inspiration fluide glaciale.
Oui, complètement, mais moins beauf et moins...
Bien sûr.
Voilà.
Avec son époque, avec...
Exact.
Bien sûr, avec l'évolution de tout ça, évidemment. Mm. Et tu saurais dire d'où ça te vient, ces thèmes ? Pourquoi ça t'inspire ?
Oh, ouais, j'en ai un peu aucune idée. Les trucs, on va dire, un peu tabous, un peu dégueux, ça a toujours été quelque chose qui m'attire. Je saurais pas trop dire. Je sais que j'ai une passion pour, les films d'horreur, les machins comme ça, les trucs un peu en dehors... Des chemins, je sais pas comment expliquer.
Qui viennent déranger peut-être.
C'est ça qui vient déranger. Et en fait, quand je dis parler de ma condition de fille et tout ça, c'est aussi quelque chose qui dérange, j'ai l'impression. Et du coup, ça me plaît de mettre la lumière sur des trucs dont personne parle et des machins comme ça. Et en fait, c'est ça aussi qui est super. C'est quand je fais une BD sur un sujet qui est entre guillemets tabou, il y a énormément de gens qui réagissent à ça. Positivement en fait parce que c'est des trucs que, genre, qu'on n'ose pas dire ou des machins comme ça et je sais pas, ça me plaît de partager des secrets en fait.
Donc, ouais, voilà. Yes. Et toi Florence, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents dans ta création?
Ah oui, dans ma création actuelle clairement c'est la place de la femme dans la société et puis au regard de mon âge d'abord c'est renoncer à l'invisibilisation qu'on nous impose Oui, c'est féministe malgré tout. Oui, le thème principal, même si je parle d'écologie, de solidarité, c'est le féminisme. Et d'ailleurs, c'est très symbolique qu'une femme monte sur scène, prenne un micro et ose prendre la parole, s'adresser directement aux gens en ayant une forme, je dirais pas de pouvoir, mais on l'écoute forcément. Et je crois qu'il y avait quelque chose de très important pour moi, de salvateur, de se dire qu'on pouvait être écoutée en tant que femme, être entendue, être vue. Sans avoir besoin d'un prétexte de faire quelque chose, c'est-à-dire d'être une mère, d'avoir un métier productif, d'être juste là en tant que femme et dire qui on est. Et là où je rejoins un peu Cuillère, c'est que moi j'aime un peu choquer aussi. Alors choquer dans le sens où je confie au début de mon spectacle le fait qu'à mon âge, on a encore beaucoup d'intimité, beaucoup de sexualité, beaucoup de vie. Et ça, c'est tout à fait invisibilisé par notre société. Et j'aime interpeller les plus jeunes spectateurs, enfin des gens qui pourraient être mes enfants, et ça les fait rire que je les confronte, sans vulgarité, mais que je leur fasse juste évoquer le fait que leur mère peut-être a une vie qu'ils n'imaginent pas, et ça c'est amusant de démarrer comme ça, parce que c'est féministe ça aussi, de dire juste d'exister dans un statut de femme qui est propre, et moi ça m'a mis longtemps finalement à oser le dire, je le pensais, mais oser le dire. De ne pas être juste une mère, une grand-mère, une fille, la fille de mes parents, d'avoir une place qui est juste d'une femme.
Vous écoutez le best-of de Sur les chemins de la création.
Allez, rapidement, parce qu'on se rapproche doucement de la fin. Si vous aviez, là, tout de suite, la création de vos rêves, ce serait quoi ? Vous avez tous les moyens, tout ce qu'il faut et voilà, vous avez tous les moyens et vous faites la création de vos rêves. Quelle serait-elle ?
Un ange passe.
Alors, au niveau création de mes rêves, moi, je voulais, à un moment donné, j'ai envie de dire, je suis un peu dedans, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu donner du sens, et c'est pour ça que j'ai créé Magicien des écoles. C'était sortir simplement de la partie ludique et utiliser vraiment le côté magie pour donner du sens à ce que j'étais en train de faire.
Donc, toi, c'est une création qui donnerait du sens.
Il y a une quête de sens, oui.
Quête de sens.
Mais après,
tu vois une couleur, une forme, n'importe.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, c'était des créations que sur la partie ludique. Et okay. Là, moi, au niveau création, maintenant, je suis plus sur la recherche pour donner du sens. Que ce soit pour les enfants, ou il m'arrive aussi de faire d'autres types de prestations, d'être consultant pour des entreprises, et de présenter leur message avec des émotions beaucoup plus fortes.
Ok, de l'émotion et du sens pour la création de tes rêves.
Tout à fait.
Et toi, Léo, dans l'absolu, si tu pouvais créer n'importe quoi qui te ferait le plus rêver possible ?
Ah, c'est une très bonne question, parce que moi, j'ai un peu l'impression de finalement de vivre ce rêve en ce moment, parce que j'ai déjà l'espace de jouer mes créations, d'avoir cet espace-là pour le faire, en fait. Je trouve que le rêve, la denrée la plus précieuse, c'est le temps. Mmh. Là, des fois, la vacance et un peu l'ennui, un peu la jachère qui va faire que ça va faire émerger des choses. Mais quand tu me dis ça, le rêve et le comme si j'avais tout en illimité, j'ai l'impression que ça me fait presque un peu peur. Finalement, je me dis ouais, mais en fait, je sais pas où j'irai vraiment sans contrainte, sans imperfection, sans accident. Donc voilà. Et pour la petite blague, très souvent, mes rêves, quand je rêve de musique, ça se passe pas très bien. C'est l'espace où ça foire, quoi. Voilà. Le rêve, c'est que ça continue, que j'arrive à le nourrir encore pour longtemps, quoi. Tout ça.
Eh ben, je te le souhaite. Alors, et alors, on va finir avec...
Voilà, oui. J'allais y venir. J'ai envie de faire travailler un petit peu tes rêves à toi aussi.
Ah.
Avant le début de l'émission, je t'avais demandé de penser à une personne.
Oui.
Ok, tu as cette personne en tête.
Oui.
Tu pourrais en rêver sans problème. Tu vas te concentrer. Tu vas imaginer que le prénom de cette personne se trouve écrit en grosses lettres,
ouais.
Juste en face de toi.
Ok, je l'ai.
Et tu vas te concentrer sur une consonne au centre. Tu l'as, la consonne la plus au centre de ce prénom ?
Alors, dans le centre pile, il y en a deux.
Ok.
Mais j'en prends une.
Ok, prends la première.
Ok.
Un G, ça a un sens pour toi ?
Tout à fait.
Et t'as hésité avec un R ?
Exactement.
Ok. C'est quelqu'un une amie proche ? De plus qu'une amie, c'est
plus
quelqu'un,
qu'une amie.
Quelqu'un de ta famille.
Oui.
Une sœur peut-être.
C'est ma sœur.
C'est ta sœur. Ouais. Donc, mais on peut avoir des fois des affinités. On peut être de la même famille. Comme disait Napoléon, la famille on nous l'impose, les amis on les choisit. Donc, mais c'est à ta sœur que tu as eu envie de penser. Concentre-toi sur la première lettre de ce prénom.
Oui.
Un I.
Exactement.
Tu as une sœur qui s'appelle Ingrid, c'est ça?
Exactement. Je Bravo, Olivier.
Là, ça va être un peu le plus compliqué pour trouver les mots, pour clôturer.
Ouais. Eh ben, c'est super. C'était
ben, on la salue.
On la salue, ah, d'ailleurs.
Ouais. Salut, Ingrid. Petite dédicace à ma sœur en direct avec Olivier, le magicien mentaliste incroyable. Merci.
Et Léo?
Eh oui, bah moi je suis bouche bée, alors ça se voit pas trop comme, comme émotion à la radio, mais ouais.
Vous écoutez le best-of de Sur les chemins de la création.
Bonjour Valentine et bonjour Vivien.
Bonjour.
On va commencer par le commencement et l'origine de la création dans vos vies. Et je pose toujours cette question en premier, quand est-ce que la création entre dans vos vies, respectivement?
Oh oh. Tu vas?
Bah, j'y vais. Allez. Ouais, moi, la création, elle est arrivée toute petite, déjà, je sais pas. Je pense que depuis que je suis en âge d'écrire, sur des tableaux noirs, sur des feuilles, sur des... peu importe, j'ai toujours écrit des histoires. Alors au départ, des histoires de... comme pour écrire un livre. Alors j'écrivais une page et je me disais, celui-là, ça va devenir un vrai livre. Bon, finalement, ça dépassait jamais un chapitre. Et puis petit à petit, en synthétisant, je me suis mise à écrire des poèmes. Et puis petit à petit, des chansons. Et aujourd'hui, c'est quand même mon moyen d'expression de prédilection, écrire des chansons. J'en écris plein.
À l'appel,
dont la majorité ne sortiront jamais de mes cahiers, mais c'est vraiment un moyen de sortir et d'exprimer ce que j'ai profondément.
Et du coup, ça arrive quand t'as l'âge d'écrire, donc dès le CP, ou c'est, si tu devais dater ou une époque où tu commences à écrire des poèmes et des chapitres d'histoire.
Ouais, je pense depuis que j'ai l'âge de tenir un stylo et d'écrire. Puis je me souviens aussi que avant même, donc quand j'avais l'âge d'écrire, sans vraiment écrire avec un stylo, j'ai dessiné des lignes comme ça sur la feuille et je disais, regarde, je suis en train d'écrire des histoires.
Ah waouh. Avec des lignes.
Avec des lignes qui étaient pour moi vraiment des mots, mais.
Ok, chouette. Et toi, Vivien, tu saurais.
Alors, moi, je pense que là, j'ai commencé à créer, surtout dans ma tête au début, beaucoup. À travers les jeux, les univers fantastiques, je jouais souvent des personnages. Et en fait, j'ai commencé par le théâtre, très rapidement. En fait, je crois que ma première pièce de théâtre, c'était à 9 ans, où on m'avait permis d'écrire mon personnage. J'ai joué le rôle d'une maman, et je m'en souviens, c'était vraiment, vraiment très chouette. Et je crois que les premiers moments où je peux te dire que j'ai commencé à créer une œuvre où je l'ai conscientisée en tant qu'œuvre, parce qu'avant je créais des espaces imaginaires qu'ensuite je dessinais, que je documentais, d'où ma passion pour le jeu de rôle en partie. Ma première œuvre, je l'ai fait vraiment à mes 11 ans. C'était une chanson au piano, à la guitare, piano et à la voix, pardon. Et c'était une chanson très très enfantine sur les crayons de couleur, mais à partir de là, j'ai pas arrêté en fait d'écrire de la musique, et je pense que j'ai toujours composé depuis ce jour-là, quoi.
Et ta chanson sur les crayons de couleur, justement, tu saurais dire comment elle est venue? Est-ce que tu avais un propos à défendre? Tu avais envie de dire quelque chose? Ou est-ce que tu as pris la guitare, tu as gratté des accords, et puis de fil en aiguille, comment ça s'est construit, ta première chanson quand tu avais 11 ans?
Waouh! Alors, j'étais dans une classe de chœur à cette époque, et du coup, je choralisais. C'était d'ailleurs une des super expériences au début, et j'avais vraiment envie d'écrire un morceau pour le chanter avec le chœur dans cette classe là et ouais, je crois que je m'y suis mis vraiment, moi, je vais écrire un morceau, quoi. Et donc c'est venu un peu par la force de
comme un exercice,
mais avec vraiment une envie de partager quelque chose. Et surtout, j'ai écrit cette chanson C'est une chanson extrêmement joyeuse, vraiment toute pipounette. Toute pipounette, les crayons de couleur. Mais ça, c'était vraiment juste en, voilà, dans... J'avais vraiment envie de le partager aux gens de ma classe de cœur.
Il y a une forme de générosité dans la création. Et dans le fait qu'on crée quelque chose, mais qu'on le partage, et que souvent il y a un public, ou un lecteur, ou un auditeur. Et du coup, ça me laisse à penser pour qui on crée, parce qu'on crée pour soi, évidemment, mais aussi pour les autres. Comment vous vous situez dans cette question-là de pour qui on crée?
Ça, c'est une excellente question, en réalité. Moi, je dirais que, bon, alors d'abord, bien sûr, on crée pour soi, pour se guérir, mais aussi on crée parce que, bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je me dis que si ça m'aide à moi de mettre des mots, ça peut potentiellement aider des gens qui ressentent la même chose que ce que je ressens moi. Et donc, ça peut, le fait d'écouter ces mots-là peut les aider à grandir, à se soigner, à prendre soin d'eux-mêmes. Et puis, je trouve que voilà, les mots, parfois, on a du mal à utiliser les bons. Et que pourtant, c'est un moyen de s'exprimer qui est le moyen le plus simple. Et donc, pour moi, voilà, c'est important de donner cet outil-là d'utilité publique.
Vous écoutez le best-of de Sur les chemins de la création.
On va glisser doucement vers le mot de la fin, les amis. Le mot de la fin, comme chaque fois, dans chaque épisode, c'est un seul mot qui définirait votre rapport à la création.
Authenticité.
Sans discuter, amour.
Un ressenti.
L'inspiration.
Le mouvement.
Le chemin.
La liberté.
La vitalité.
Enfance.
Femme.
La vie.
L'émotion.
Je dirais magie.
L'acharnement.
Moi, je crois que je dirais naturel.
Rire.
Moi, ce serait jouer.
Moi, je pense que c'est échange.
Amour.
Spontanéité.
Intimité.
Je sais pas s'il existe ce mot, la vibrance, ça n'existe pas.
L'authenticité. C'est le bordel un peu.
Liberté.
Moi, ce serait la fantaisie.
La sensibilité, oui.
Eh ben, c'est... C'est un très bon moment ensemble, les amis, pour c'est parler clair. De ce qui nous rassemble, la création. Ça fait, à vrai dire, 2 ans que je pense très fort à parler de ce sujet qui, pour moi, est...
Là aussi, il y a une création. Hein.
Fascinant. Yes, c'est la création dans la création.
C'est que le début.
Même toi, tu pourrais dire comment tu l'as créé, ce truc et tout.
Eh bien, allez. C'est parti pour la petite anecdote. Alors, un jour, je marchais dans la garrigue avec Lolo, ici présent, d'ailleurs. Et je me disais que c'était fou parce que l'inspiration, la création, elle surgit de partout, de nulle part. Et que tu prends 2 bâtons, un caillou, tu crées un monde, tu fais un spectacle. Enfin, moi, je viens du spectacle vivant. Et je me dis, c'est quand même dingue, ce truc où on part de rien, d'un truc complètement au hasard, parfois. Ça nous emmène dans une dimension et de fil en aiguille, on crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence. Et c'est parti d'un point de départ, d'un truc de rien du tout. Et ça nous emmène parfois dans des projets artistiques incroyables, à plus ou moins grande échelle d'ailleurs, peu importe. Mais il y a quelque chose qui me fascine et c'est ça que j'ai eu envie d'interroger. Et je me suis dit, moi en tant qu'artiste, m'interroger là-dessus, mais pas seulement moi, j'ai envie de donner la parole à tous les artistes pour qu'ils puissent venir mettre leur petit grain de sel là-dedans et parler de leur rapport à la création. Je trouve ça fabuleux. Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime des choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.